Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans Ésaïe chapitre 32 pour notre étude du jour. Et le titre de ce message concerne un roi qui règne dans la justice. Un roi qui règne dans la justice. Nous allons parcourir seulement les 8 premiers versets de ce chapitre, et puis Dieu voulant finir le reste du chapitre la prochaine fois. Mais nous voyons à partir du verset 1, d'où sort le titre de ce message, c'est écrit « Alors le roi règnera selon la justice ». Et les princes gouverneront avec droiture. Rappelons-nous que Dieu avait prophétisé à travers Ésaïe que la nation de la Syrie devait venir et envahir surtout la partie du nord du pays, les 10 tribus du nord qui se sont séparées après la mort de Salomon. Et pendant des centaines d'années, ont eu leur lieu, leur siège en Samarie. Mais Dieu a prophétisé à travers Ésaïe donc la dissolution de ces tribus et que la Syrie allait les conquérir et l'amener en captivité. Et en fait, à partir du moment où la Syrie a envahi ce pays et a pris les 10 tribus en captivité, nous ne lisons plus de l'existence de ces 10 tribus. Ces 10 tribus ont complètement disparu. Il ne restait que Juda et Benjamin, les 2 tribus du sud. Donc c'est un peu le contexte historique ici. La Syrie n'avait pas encore envahi complètement le pays. La Syrie était à la porte, devait être à la porte de Jérusalem et le roi de la Syrie avait l'intention de complètement détruire Jérusalem et le temple. Mais Dieu a arrêté leur projet et le roi a dû retourner dans le pays. C'est comme nous avons vu la dernière fois, il y a 185 000 de leurs soldats qui sont morts dans une seule nuit. Tout cela, Ésaïe est en train de prophétiser avant le fait. C'est pourquoi dans le dernier chapitre, Ésaïe 31, nous avons vu ça. « Et l'Assyrien tombera sous un glaive et qui n'est pas celui d'un homme. » C'est-à-dire que cela devait mourir pas de la main des hommes ou l'épée d'un homme, mais par la main du Seigneur lui-même. Et donc, quand nous commençons alors dans le chapitre 32, le verset 1, quand ça commence avec « alors », c'est-à-dire c'est la suite. Qu'est-ce qui devait arriver à long terme, à cette époque où la Syrie, l'armée, était complètement détruite et le roi a dû retourner chez lui, comme nous avons vu la dernière fois. Ses propres fils l'ont assassiné peu de temps après. C'est comme ça que Dieu a agi pour arrêter l'armée assyrienne et la puissance assyrienne. Quoique c'est Dieu qui a suscité cette nation au début pour servir ses desseins contre les 10 tribus du Nord. Mais comme Dieu est souverain, il a suscité l'armée assyrienne, mais il a aussi anéanti cette armée. Et c'était quelques centaines d'années plus tard que Babylone. Alors, Dieu l'a suscité pour accomplir ses desseins contre Jérusalem et Juda. Pourquoi Dieu a dû préserver Juda? C'est parce que c'est de cette postérité qu'il a annoncé que son fils, le Seigneur Jésus-Christ, devait sortir, comme la postérité de David. David était le roi de Juda. Donc tout cela est important pour nous de considérer ce que Dieu est en train de faire. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il est souverain en ce qui concerne les nations qui sont suscitées et les nations aussi qui sont abaissées. Nous continuons donc à lire que c'est à cette époque que Dieu a annoncé qu'il y avait un roi qui devait régner selon la justice. Il y avait beaucoup d'injustice, surtout les rois des 10 tribus du Nord étaient tous des rois injustes et réprouvés. Il y en avait aussi au sud, dans la tribu de Juda, mais il y avait quand même quelques-uns que Dieu a suscité qui ont régné selon la justice. Et cela, nous savons, représente le règne du Seigneur Jésus-Christ. Ici, dans ce contexte, le roi dont il parle ici était le roi Ézéchias, qui était suscité au moment où les Assyriens ont menacé Jérusalem et le temple, les armées assyriennes, les soldats sont venus jusqu'à la porte de la ville où ils pouvaient parler à ceux qui étaient sur le mur, menaçant le roi et le peuple. Mais c'est Dieu qui s'est intervenu à travers Ézéchias. Donc je crois historiquement, ce que nous sommes en train de voir ici concerne ce roi-là. Mais c'est Dieu qui devait le susciter. Au milieu de tout ce qui n'allait pas, voilà, Dieu a placé à Juda un roi qui devait régner selon la justice parmi le peuple. C'est pourquoi je disais que c'est une représentation du Seigneur Jésus-Christ, que lorsqu'il est venu dans le monde, il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Néanmoins, il est venu pour établir son royaume selon le dessein de son Père. Et il a accompli effectivement le fondement de son royaume à travers sa mort. D'abord par sa vie, il a vécu une vie parfaite devant son Père. Et tout cela, c'était pour son peuple, ses élus qu'il devait sauver. Et puis, il a donné sa vie pour satisfaire à la loi. La loi exigeait dans ses préceptes une vie parfaite. Et là, il a vécu cette vie. Et puis, la loi aussi exigeait la peine, les préceptes de la loi et la peine de la loi, qui est la mort. La peine du péché, c'est la mort. Mais c'est Christ qui a dû subir cette peine pour satisfaire à la justice de son Père, afin que Dieu soit juste pour justifier, pas tout le monde. C'est comme ici, ce roi que Dieu devait établir dans la personne d'Ézéchias était un roi qui régnait sur son peuple. C'était pour la protection de son peuple contre l'ennemi. C'est ainsi avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, il règne sur le monde, mais il a en vue son peuple, les élus que le Père lui a donnés, et ça ne concerne pas seulement Israël. Beaucoup aujourd'hui, partout, pensent que ce peuple d'Israël continue à être le peuple favori de Dieu, et que même si maintenant cette nation est égarée, ils s'imaginent faussement que Dieu un jour va ressusciter la nation d'Israël et rétablir le temple et le culte au temple et les sacrifices, tout cela. Mais nous savons que cela ne peut jamais être parce que Christ est venu accomplir tout cela. Le véritable Israël de Dieu aujourd'hui est un Israël spirituel. C'est un peuple que Dieu a choisi et pour qui Christ est venu donner sa vie. Il a payé la rançon pour satisfaire à la justice de son Père. Et aujourd'hui, Christ règne sur son peuple. Il vit assis au ciel, sur le trône, pour assurer que chacun pour qui il a donné sa vie soit sauvé, soit attiré à lui. Et donc, ici, dans notre chapitre, Ésaïe 32, ça parle ici d'un roi historique qui devait être suscité à cette époque, mais comme nous allons voir, ce roi représentait le règne du Seigneur Jésus-Christ. Chacun, verset 2, sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une telle terre altérée. Vous ne voyez pas là des images poétiques qui décrivent ce que c'est d'être sous un roi qui règne selon la justice. Et lorsque ça parle là dans le verset 1, des princes qui gouvernent avec droiture, Dieu a fait de son peuple un royaume de sacrificateurs. Quand on entend le mot royaume, cela veut dire ceux qui règnent. Et la description ici dans le verset 1, je crois, représente d'abord ceux qui prêchent l'évangile, mais aussi, deuxièmement, ceux qui sont sous l'écoute de l'évangile. Nous régnons avec Christ. Nous sommes des princes avec Dieu. Tel est le rôle ou bien le fruit de ce que Dieu a fait pour son peuple en Jésus-Christ. Et donc, ce qui suit représente les bénédictions spirituelles que le peuple de Dieu a comme privilège à cause de celui qui règne, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Notons les mots-clés. Il est comme un abri contre le vent. Nous pouvons dire cela de ce que nous sommes en Christ, si il est notre représentant. Deuxième mot-clé, c'est un refuge contre la tempête. Quelle que soit la tempête, que ce soit le monde, que ce soit le péché, que ce soit le diable, quelle que soit la tempête qui agit contre un de ceux qui est sous le règne de ce roi, c'est ce roi qui est le refuge pour eux. Comme des courants d'eau, Christ est l'eau vive, n'est-ce pas? Donc, comme des courants d'eau dans un lieu desséché. Un lieu desséché décrit notre état dans ce monde, dans le péché. Non seulement ce qui est dans le monde, mais dans nos propres cœurs. Nous sommes dépravés. Mais oh, comment Christ représente par son esprit des courants d'eau qui coulent avec la grâce de Dieu pour ceux qui sont dans un lieu desséché. Et puis, un autre mot-clé là, comme l'ombre d'un grand rocher. Vous avez l'ombre, mais vous avez aussi le rocher. Qui est le rocher? C'est Christ, comme dans une terre altérée. Donc, il y a beaucoup dans ces deux premiers versets que nous devons considérer comme d'ailleurs, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est sous forme de type, d'image, et tel est le cas de ce roi Ézéchias, mais nous devons voir comment ça représente un roi de justice qui règne dans la justice dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Parce que toutes ces prophéties de l'Ancien Testament, tous ces prophètes avaient l'Esprit de Christ en eux. Et donc, c'est écrit non seulement pour nous donner un aspect historique. Bien sûr, tout cela s'est basé dans l'histoire, mais Le but de l'histoire, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ a dit ça aux pharisiens. C'est ici qu'ils ont raté le but de ces Écritures. Parce qu'il a dit, il leur a dit qu'ils sondaient les Écritures, pensant dans ces Écritures avoir la vie éternelle. Mais il a dit, ce sont elles qui révèlent, qui parlent de lui. Et donc, lorsque nous traversons l'Ancien Testament, c'est dans ce but, chercher Christ, voir comment il est typifié, il est représenté à travers toutes les Écritures, parce que c'est lui qui est le sujet. Alors nous continuons, comme je disais, le texte c'est jusqu'au verset 8, « Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. » Est-ce que cela ne décrit pas l'œuvre du Saint-Esprit en ouvrant les yeux pour que des pécheurs voient Christ? Notons, ce n'est pas tout le monde. Les yeux de ceux qui voient. Ça suppose même la manière que c'est écrit qu'il y en a qui restent aveugles. Et tel est le cas, même aujourd'hui. Ce n'est pas que la parole de Dieu n'est pas claire. La parole est très claire. Mais les gens ne peuvent pas voir Christ à travers les Écritures, si ce n'est l'Esprit qui ouvre les yeux. Et lorsqu'il ouvre les yeux, c'est écrit, ses yeux ne seront plus bouchés. On ne va jamais retourner encore dans l'aveuglement, là où l'Esprit, eux, ouvre des yeux. Non seulement les yeux, mais les oreilles. Les yeux pour voir, contempler la gloire de Christ et les oreilles pour entendre à travers la prédication de la parole. Les oreilles de ceux qui entendent, quoi? Seront attentives. Rappelons-nous de cela lorsque nous prêchons. Ce n'est pas à nous d'ouvrir les yeux. Ce n'est pas à nous d'ouvrir les oreilles. Mais c'est Dieu qui fait cela à travers la prédication de Christ. C'est pourquoi nous ne faisons qu'insister sur Christ et Christ crucifié. Et à travers ce message, Dieu ouvre les cœurs de ceux qu'il a choisis. C'est comme ça, le verset 4 nous dit, « Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui qui magnanime. Car l'insensé profère des folies et son cœur s'adonne au mal pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme qui, de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. » De qui ça parle là? Ça parle des faux prédicateurs qui prêchent, mais qui laissent les gens dans leur état de péché, sans espoir. Et comme c'est écrit, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim. Il faut savoir que là où nous prêchons, lorsque Dieu conduit des pécheurs pour venir s'asseoir écouter, ce sont des âmes affamées. Donc à nous de leur présenter le pain de vie et l'eau de vie qui est Christ. Et c'est ainsi que Dieu agit par son esprit pour abreuver les affamés. Mais les âmes du fourbe sont pernicieuses. Ils forment de coupables desseins pour perdre les malheureux par des paroles mensongères. Si quelqu'un n'est pas en train de prêcher Christ, donc ses paroles sont des paroles mensongères. Il n'y a qu'une seule vérité. C'est qui est Christ et pourquoi il est venu dans ce monde et qu'est-ce qu'il a accompli par l'œuvre qu'il est venu faire dans ce monde, pour qui il est venu et où il est maintenant. Ces cinq points résument tout l'évangile que nous avons à annoncer. Et ce qui n'est pas conforme à cette parole, cette doctrine de Christ, pas des doctrines, mais l'unique doctrine de Christ, ce qui n'est pas conforme à cette doctrine, on peut dire tout simplement que ce sont des paroles mensongères. Même quand la cause du pauvre est juste, mais celui qui est noble forme de nobles desseins et il persévère dans ses nobles desseins. Il y en a qui sont insensés, comme c'est écrit dans le verset 5, et pourtant on leur donne le nom de noble. C'est comme les titres qu'on donne aux prédicateurs insensés, qui ne sont pas enseignés de Dieu. Pourtant, ils sortent pour prêcher, évangéliser selon eux, et on leur donne de nobles titres. On leur appelle révérend, par exemple, ou docteur, tout cela. Pourtant, ce sont des insensés. Mais ici, c'est écrit dans le verset 8, « Celui qui est noble, qui est noble si ce n'est celui que Dieu lui-même a établi pour prêcher sa parole au monde. Noble, non pas parce que quelqu'un est noble dans sa personne, mais noble dans le sens de la mission pour laquelle Dieu envoie ses serviteurs dans le monde, avec de nobles desseins. Si nous sommes prédicateurs de Christ aujourd'hui, notre dessein, notre but en prêchant, ce n'est pas d'attirer la gloire à nous-mêmes. Ce qui rend le dessein noble, c'est que nous avons le désir de proclamer Christ et de glorifier Christ à travers sa parole. Et c'est dans cela que nous persévérons. Vous voyez ça dans le verset 8, il persévère dans ses nobles desseins. Tout cela, c'est l'application, je crois, de ce passage. Mais revenons encore dans le contexte, parce qu'il y a beaucoup à faire sortir de cela dans le contexte historique. Et c'est très important pour nous, lorsque nous prêchons, adressons le contexte historique, mais de là, tirons maintenant les leçons spirituelles. Ça, c'est la véritable manière de prêcher la parole de Dieu. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a fait en prêchant. Il prenait des passages de l'Ancien Testament et il démontrait comment ces versets, ces écritures étaient accomplies dans sa personne et son œuvre. Donc ici, dans le verset 1, alors nous avons cette prophétie d'un roi qui devrait régner dans la justice, c'est-à-dire au lendemain de la délivrance de Jérusalem, dont on a parlé dans le chapitre 31, historiquement, où l'armée assyrienne a dû s'enfuir. Et donc Dieu a préservé la ville de Jérusalem et le temple à cette époque. Au lendemain, ça c'est le sens de ce mot « alors », le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. C'était l'intention de l'armée assyrienne de complètement conquérir et détruire la ville et son peuple et le temple. Mais Dieu étant intervenu, voilà ce qui reste, un roi et ses princes qui gouvernent avec la droiture. C'est une belle image de ce que Christ a dit qu'il bâtirait son église et les portails de l'enfer ne prévaudront point contre cette église. Mais voici un roi, c'est écrit, régnera dans la justice. Comme je disais, historiquement, cette promesse a été faite dans un certain contexte. Dans le chapitre précédent, comme nous avons vu, Dieu a assuré que les Assyriens seraient jugés et que Juda serait délivré. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Il est juge en ceux qu'il sauve et il est juge en ceux qu'il condamne. Mais Dieu n'avait pas le dessein de simplement éliminer la menace. Maintenant, il allait bénir Juda avec un roi juste. Et alors la promesse a été faite. C'est fort probable que cette prophétie d'Ésaïe, non seulement ici dans le chapitre 32, mais ça continue jusqu'au chapitre 33, ça a été donné avant l'époque de la prophétie qu'Ésaïe avait donnée dans Ésaïe 30 et les versets 31, par exemple. C'est écrit, « À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera, l'Éternel le frappera de sa verge. » Tout cela était encore futur, mais Dieu avait donné cette prophétie à Ésaïe de l'annoncer bien d'années d'avance. Et ça nous démontre encore que les Écritures sont la parole de Dieu. Qui pouvait décrire dans le moindre détail tout ce qui devait se passer, même des dizaines, des centaines d'années plus tard. Alors, je crois, c'est pour ça que nous voyons ici dans le contexte historique qu'il s'agissait de l'invasion assyrienne de Juda et que ce qui est écrit dans les chapitres 30 et 31 se situait à l'époque d'Ézéchias, alors que l'invasion s'approchait de Jérusalem. C'était Ézéchias qui était le roi que Dieu avait placé sur le trône. Alors, quand c'est écrit qu'un roi régnera dans la justice, dans un certain sens, on peut dire qu'Ézéchias a certainement accompli cette prophétie. Et il était fidèle à la parole de Dieu que Dieu lui avait donnée. Il était dirigé par l'Esprit de Dieu pour diriger le peuple selon la justice. Si vous voyez dans Deux Rois, le deuxième livre de Rois et le chapitre 18, si vous voulez le contexte historique de ce que nous sommes en train d'étudier ici dans Ésaïe, parce que c'était à cette époque qu'Ésaïe prophétisait. Alors voilà le contexte dans 2 Rois chapitre 18 et le verset 3. Nous voyons dans le verset 1, « La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. » Et le verset 3 dit, « Il fit ce qui est droit. » Voilà ce que le mot « justice » signifie. « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. » Donc David représentait Christ dans son règne. Voilà, bien d'années plus tard, Dieu a suscité un autre par le nom d'Ézéchias qui représentait aussi Christ dans son règne. Et nous voyons le témoignage de Dieu dans les versets 5 et 6. C'est écrit, « Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda, parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. » Donc comme type du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que nous pouvons dire, il était ce que Christ devait être en vérité. Nous savons qu'Ézéchias était un pécheur comme tout autre, mais ayant l'esprit de Christ en lui, il s'est confié à l'Éternel et il agit de la manière que l'esprit le dirigeait pour accomplir la volonté de son Père. Il était l'image, mais en fait, Christ, le Seigneur Jésus-Christ, est la réalité. Lorsque Christ est venu, c'est de cette manière qu'il régnait. Et nous voyons ça clairement représenté ici dans Ézéchias. Christ, c'est lui qui est notre roi juste. Et ses vrais disciples, son vrai peuple, je crois que ceux-là, ici dans Ésaïe 32, sont visés. Le roi et ses princes. Et les effets de son règne, qui sont représentés ici par l'eau qui coule dans un désert, un lieu desséché, l'ombre, comme un grand rocher dans une terre altérée. Comment est-ce que nous pouvons lire cela et ne pas voir comment Christ est représenté pour son peuple? Ce sont représentés ici les consolations de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et quelle consolation! Comme des fleuves d'eau dans une terre aride et comme un rocher qui sert d'abri pour rafraîchir des voyageurs, des pèlerins fatigués. Parce que nous traversons ce monde, c'est comme un désert. Et pourtant, notre recours, c'est en Jésus-Christ. Et tout cela est promis ici pour ceux qui sont sous le règne juste de ce roi juste, représenté en Ézéchias, mais accompli certainement en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ devait supporter lui-même la tempête lorsqu'il est venu, afin de garder cette tempête loin de nous. C'est ça qu'il a fait en prenant sur lui la charge des péchés de son peuple et la condamnation de la loi. C'est lui qui a dû supporter cette tempête afin de l'éloigner de nous. Et Dieu merci, nous pouvons dire que cette tempête maintenant est éloignée de nous. Il n'y a plus de condamnation, comme Paul a dit dans Romains chapitre 8, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que ce soit un pécheur qui tremble à cause de son péché et qui s'enfuit à Christ pour se réfugier. On ne peut pas trouver d'autre refuge que le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui protège le pécheur pour qui il est venu dans ce monde. Et non seulement protège, mais rafraîchit chacun des siens, quelle que soit l'épreuve. Quelle que soit l'épreuve que nous traversons maintenant, c'est Christ qui est allé de l'avant comme le souverain sacrificateur pour son peuple. Et quelles que soient les douleurs, quelles que soient ce que le pécheur doit supporter à cause de son propre péché, c'est-à-dire vivant dans cette chair, nous ne pouvons pas trouver de meilleure consolation de ce qui est écrit ici, en ce roi qui devait régner selon la justice. Vous savez que si Dieu sauve des pécheurs, c'est d'une manière juste. Et lorsque Christ est venu, c'était afin d'établir cette justice à l'égard de son peuple, à leur place, pour que Dieu puisse être juste tout en déclarant juste. C'est ça la justification. C'est depuis la croix, lorsque Christ a dit tout est accompli, c'était accompli. Et Il ne reste maintenant que pour l'Esprit d'attirer à Christ, à travers la prédication de l'Évangile, ceux pour qui il est mort, ceux qui doivent chercher en Christ leur refuge. C'est Dieu qui les rend à la vie pour qu'ils se sentent dans le besoin. Il ouvre leurs yeux, il ouvre leurs oreilles, il leur donne cette soif après sa justice. Parce que nous n'avons aucune justice en nous-mêmes. Et je crois que c'est dans ce sens que ça dit que les princes régneront avec justice en lui. Nous régnons avec Christ. Et tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, c'est grâce à lui. Quelle bénédiction spirituelle que nous avons en Jésus-Christ. Ézéchias, ici, qui représentait le roi juste, avait pour but de désigner le Seigneur Jésus. Et le peuple qui existe sous le règne de Christ n'est autre que ceux pour qui Christ est venu. Dans la première épître de Pierre, si vous tournez là, 1 Pierre chapitre 2 et le verset 9. Notons le langage qui est utilisé ici, tiré encore de l'Ancien Testament. C'est écrit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oh, quelle belle description alors, comme ici dans Ésaïe 32, verset 1. Il y a le roi qui règne selon la justice, ça représente Christ, et les princes qui gouvernent avec droiture, ça c'est son peuple. Et comment quelqu'un arrive à entrer dans ce royaume, Dieu a dit à Nicodème que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut cette nouvelle naissance de la part de Dieu, naître d'en haut. Et ceux qui sont nés d'en haut sont décrits ici dans le verset 9 comme une race élue avant la fondation du monde. Ce n'est pas selon les mérites de chacun, mais ce sont les mérites de Christ. Puisqu'élu en Christ, avant même la fondation du monde, ce sont ceux que le Père a donnés à son Fils. Et notons, un sacerdoce royal. Un sacerdoce dans le sens qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous n'avons pas besoin d'autres intermédiaires maintenant de pouvoir nous approcher de lui. Mais nous nous approchons avec l'autorité qui nous est donnée par Dieu en Jésus-Christ, régnant avec lui. Notons, une nation sainte. Comment est-ce que une nation peut être décrite comme sainte? C'est parce que cette sainteté, c'est par imputation, c'est par la sainteté que Christ est venu achever à l'égard de son peuple que cette nation spirituelle maintenant est considérée comme sainte devant Dieu. Un peuple, notons, acquis. Ça, c'est la rançon. C'est par le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, quand a eu lieu, voilà la question, quand a eu lieu la justification du peuple de Dieu? Ce n'est pas lorsque nous croyons. Non. Nous croyons parce que cette justification a déjà été accomplie à la croix. Un peuple acquis. La rédemption et la justification sont synonymes. Ceux qui sont rachetés sont justifiés devant Dieu et ceux qui sont justifiés ont été rachetés en même temps. Afin, c'est écrit, que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà notre témoignage alors. Lorsque nous sortons pour aller dans le monde, nous annonçons pas nos vertus, mais afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce sont des vertus du Christ que nous avons à annoncer. Donc, quel beau passage que nous voyons ici, représenté bien sûr historiquement dans le roi Ézéchias, qui était un type de Christ. Mais lorsque nous lisons maintenant, nous voyons comment tout cela, les bénédictions de cette justice, sont les bénéfices des pécheurs comme nous qu'il est venu sauver. Alors que son nom soit béni. Amen.